Notre ami, notre collègue aux amateurs de sport, Stephen White, faisait partie de l'équipe d'entraîneurs de l'équipe canadienne lors du dernier gros tournoi avec toutes les vedettes de la LNH, du gros tournoi international. C'était la Coupe du Monde à Toronto. Bonsoir, Stéphane.
Salut, mon chum. Comment ça va?
Ça va très, très bien. Content de te parler d'un sujet que tu connais un peu quand même, les gardiens de but. quel signal ça t'envoie de voir Carey sur la glace une couple de semaines après son opération au ménisque, Stéphane, quand même? Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à arrêter des rondelles tout de suite, mais c'est quand même un bon signal. Il avait l'air assez à l'aise, hein?
Ben, écoute, je ne suis pas surpris, honnêtement. Tu sais, Carey, il a joué la dernière game de la saison, puis il n'a pas l'air d'un gars blessé. Donc, en partant, je savais que son opération, c'était pas une opération très, très, très majeure. Donc, c'était un petit peu de nettoyage au niveau des cartilages, et puis c'est rien de vraiment compliqué. Donc, je pense que les Canadiens ont mis ça pire que c'était là, à cause du repêchage d'expansion dans le temps. Mais pour moi, j'ai jamais eu un doute là, que c'était rien de majeur.
Puis j'ai l'impression, puis Carey en parlait dans une entrevue également, là, les vedettes de la Ligue vont à des exercices médias en début de saison là, à Toronto pour les Canadiens, puis quelque part aux États-Unis pour les Américains. Puis il a donné une précision là-dessus. Ça fait un bout de temps que ça le gossait, entre guillemets. Là, hein, fait que, puis je pense, je sais pas s'il a subi d'autres chirurgies. Fait que c'est une bonne affaire qu'il ait réglé ça, là, parce que je pense que ça venait le rattraper de temps en temps, si je me trompe pas.
Bon, exactement. Ça l'a empêché dans les deux dernières années, des fois, de pas de manquer des matchs, mais des fois de sauter des entraînements parce qu'il y avait une petite inflammation, il était là. Et puis, non, c'est juste, c'est un bon nettoyage et puis ça va peut-être être très bénéfique.
Tu étais là avec lui et avec toute l'équipe canadienne en 2016 à Toronto. Es-tu étonné de voir que 5 ans plus tard, que quand on regarde la composition, premièrement, à ce temps-ci de l'année, là, les dirigeants d'équipe Canada, est-ce qu'ils ont déjà une bonne idée du genre d'équipe qu'ils vont avoir? Doug Armstrong et le DG, le coach, Stéphane. Ça, là, tu sais, pour les gens qui pensent qu'on fait ça un peu trop d'avance, eux autres, ils savent déjà quel club ils veulent, puis quitte à se laisser surprendre avec les premiers mois de la saison, là.
Ouais, moi, je peux te dire, là, avec l'expérience de 2016, où j'étais l'entraîneur des gardiens de but avec l'équipe Canada, c'est que, premièrement, nous, on n'a pas eu de camp d'entraînement. C'était en septembre et l'équipe t'a choisi avant le début du camp d'entraînement. Cette année, ça va être différent parce qu'il y a une saison avant. Et puis, mais je peux te confirmer que le deux tiers de l'équipe est déjà c'est déjà confirmé. Là, on va laisser un tiers pour les surprises, ceux qui vont bien cette saison. Et puis, c'est parfait de même. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Ce qui est nouveau des gardiens de but, mais je pense que il va y avoir 3 gardiens de but qui vont partir là. Et puis, je peux déjà t'affirmer que Carey Price va être un des 3.
Et est-ce que si c'était toi qui décidais, il serait le numéro 1? Y a-t-il... Quels sont les autres candidats? Qui sont tes 3? Puis après ça, dis-moi qui est ton premier puis pourquoi. Donc, Carey, mais qui...
Mon premier est Carey Price parce que pour plusieurs raisons. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il est le meilleur gardien de but canadien en ce moment, aujourd'hui. Et puis, je sais que Marc-André a gagné le Vézina. Je sais ça, mais je vais prendre quand même Carey Price pour plusieurs raisons. Et puis, Carey, écoute, il a gagné le championnat du monde junior avec l'équipe Canada. Quand il a eu son opportunité avec en 2014 avec l'équipe olympique à Sochi, il a gagné. Il était pratiquement parfait. Et puis la même chose en 2016 où ce qui revenait d'une blessure, puis malgré ça, il avait été quasiment un an sans jouer, puis malgré ça, il avait été dominant. Il n'a pas perdu un match avec une moyenne d'efficacité assez incroyable, pratiquement 94%. Et puis, écoute, puis encore aujourd'hui, mais encore prouvé dans les playoffs l'année passée qu'il était encore tout un gardien de but. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Puis je suis certain qu'avec Doug Armstrong et son équipe, son coaching staff, c'est Carey Price qui est en ce moment, aujourd'hui, le numéro 1 et de loin.
Et tu le connais tellement bien, tu es peut-être la personne à Montréal ou l'une des personnes qui le connaît le mieux. Pour lui, là, et comme plusieurs joueurs vedettes, participer aux Olympiques, à ce stade-ci de sa vie et de sa carrière, c'est important pour Carey Price, Stéphane. Peux-tu nous en donner une idée jusqu'à quel point...
Très important. très important. Il a tout le temps été très excité de représenter le Canada. Et puis, je me souviens aux Olympiques, quand Québec est choisi, juste choisi, il est venu me voir, puis c'est lui, il est venu m'annoncer la nouvelle. J'étais un des premiers qui l'avait su, et puis il était tellement content de représenter le Canada. Et puis, tu vois, pour lui, c'est très important, la préparation qu'il a eue en 2016, tout pour la Coupe du Monde, comment qu'il a pris ça très, très, très au sérieux. Et puis, non, pour lui, représenter son pays, là, c'est quelque chose de gros. Puis, en ce moment, là, écoute, il n'y a pas d'autre.
Et quand tu regardes, est-ce qu'il faut s'inquiéter, là, si on regarde ça de façon générale? Stéphane, écoute, c'est quand même étonnant que ce soit deux gars dans la mi-trentaine qui soient deux meilleurs gardiens canadiens, puis tout le mérite revient à eux.
C'est un problème.
Ouais, hein? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Écoute, regarde, les candidats là, pour l'équipe Canada, c'est pas compliqué. Là, t'as Carey Price, t'as Marc-André Fleury. Et puis après ça, là, on tombe avec des gars là, comme Jordan Binnington, ou ce que je suis pas un grand fan, Mackenzie Blackwood, Carter Hart, où ce qu'il y a eu une saison très, 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 très difficile l'année passée. Mais c'est quand même le futur là, dans 4-5 ans que je vois qu'il va prendre cette pôle-là. Et puis, moi, mon long shot, c'est Darcy Kuemper que j'adore.
Ah oui?
Darcy Kuemper qui a gagné l'année passée là, avec l'équipe Canada là, sous la tutelle de Gérard Galland au championnat du monde d'hockey sur glace au mois de début mai l'année passée.
Oui.
Qui était très, très, très bon pour l'équipe Canada. J'adore ce gardien de but-là. Puis moi, là, ce sera moi, là, demain matin, là. Il y a beaucoup d'eau qui va couler sur les ponts ici au mois de décembre, là. Mais aujourd'hui, ce sera Carey Price, Marc-André Fleury puis Darcy Kuemper. Encore là, c'est tous des gars dans trentaine.
31 ans, oui.
Oui, exactement. C'est tous des gars dans trentaine. Et puis ça, c'est un gros problème. On a un gros problème au niveau du développement, au niveau des gardiens de but depuis, je te dirais, une dizaine d'années au Canada.
La plupart des gardiens de but dominants nous arrivent d'Europe. Il y a eu une vague finlandaise, il y a eu une vague russe. Est-ce que tu peux identifier un pays qui est vraiment dominant devant le filet? On pense à Vasilevski qui est au sommet de la pyramide, là, pas très loin, mais je veux dire, puis y a-t-il une raison?
Il y a quelques années, on parlait de la Finlande, mais maintenant, depuis 3-4 ans, c'est clairement les Russes. Les Russes qui ont pris la pole au niveau du développement des gardiens de but. Et puis, sauf qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a encore beaucoup plus de Canadiens, de gardiens de but canadiens qui jouent dans la Ligue nationale que tout autre pays en ce moment. Mais c'est pas des dominants. Les dominants, ils viennent, à chaque année, ils viennent de la Russie. Puis que tu nommais un, là, Vasilevski, on parle des Varlamov à New York Islanders, on parle des Bobrovsky. Même s'il y a eu une saison difficile l'année passée, il y a eu une coupe de Vezina dans les dernières années. Un gardien que j'adore, c'est Igor Chesterkin avec les Rangers. Ilya Sorokin, encore avec les New York Islanders. Et puis t'as Ilya Samsonov qui va devenir un très, très, très bon gardien avec les Capitals. Ça, c'est des gardiens de but, des talents bruts. Puis j'adore ces gardiens de but-là dans le sens qu'ils sont, premièrement, des très, très, très bons athlètes. Ce qu'on n'a pas encore aussi au Canada. On a des bons gardiens de but techniquement. On a des gros gardiens de but qui sont bons techniquement. Mais on n'a pas développé des bons athlètes comme qui développent en Europe et spécialement en Russie. Ce que j'adore autour des gardiens de Russes, sont des très, très, très bons gardiens de but d'instinct. Quand on parle des gardiens de but de réaction ou ce qu'ils pensent pas... On dit souvent là, en termes de gardien de but, don't think, just react. Les autres là-dedans sont très, très, très bons. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre des Russes. Et puis en ce moment, mais écoute, ceux autres, là, Malheureusement, c'est eux autres qui ont la poule.
Dire que le Canada était, ben, c'était le château fort d'à peu près toutes les positions pendant longtemps, c'est l'évolution, puis c'est normal. Il faut dire qu'il y a bien des Russes qui ont été des grands joueurs de hockey avant qu'ils traversent, puis avant que les Européens de l'autre bord du rideau de fer, avant qu'ils viennent se coltailler avec les Nord-Américains, on les voyait pas. Il y avait peut-être des bons joueurs. Tu penses-tu que c'est la KHL qui explique que, tu sais, ces gars-là jouent avec du calibre plus élevé en début de carrière, puis comme Kaprizov avec Minnesota, mais sans être un gardien de but. Ces gars-là se mesurent à des pros vite. Puis il y a plusieurs clubs en Russie. Je suis une partie de l'explication, Steph?
C'est une très, très, très bonne théorie. Puis je pense que c'est une des bonnes explications parce que ces gars-là, souvent, avant de signer des contrats avec la Ligue nationale, ils ont la chance de jouer dans une ligue professionnelle qui est probablement la deuxième meilleure ligue professionnelle au monde après la Ligue nationale. Et puis ça aide beaucoup. Et l'autre chose que je peux te dire, c'est pour avoir parlé avec mon ancien gardien de but, Nikolai Abibulin, où c'est que maintenant il travaille en Russie à développer des gardiens de but. Le programme pour les joueurs en Russie, il est accessible à tout le monde. Tout le monde. Ici au Canada, je pense qu'on voit un problème de plus en plus, c'est que c'est devenu un sport de riches. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de bons jeunes gardiens de but pendant l'été à mon école de gardien de but. Je vois des beaux talents. Mais je vois des beaux talents qui vont mourir à court terme parce que souvent les parents n'ont pas les moyens de l'envoyer dans des sports élites, dans des midget 3A ou dans des écoles de hockey ou des coachs privés ou des tout ce que tu voudras. Et puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fatigue pas mal, qui me désole beaucoup, parce que je sais qu'à chaque année, on passe à côté de très, très, très beaux talents à cause de l'argent.
C'est plate, puis je sais que c'est vrai dans plusieurs sports. C'est comme au tennis, là, à un moment donné, à moins que tu sois pris dans le programme de Tennis Canada, ou que là, ça va donner accès à des terrains, mais donc, il y aurait une solution, mais je sais pas quelle, parce que même on pourrait dire ça à toutes les positions, mais qu'est-ce que tu vois? Tu pensais à des solutions, Stéphane?
Il faut que vous trouvez un moyen, j'ai pas la solution malheureusement, j'aimerais ça l'avoir, mais il faut trouver un moyen pour que notre sport national redevienne accessible à tout le monde. Et puis c'est pas le cas. Et puis comme je te disais, Nikolai Abibulin disait en Russie, on regarde pas ceux qui ont de l'argent, on regarde ceux qui ont du talent. Puis ceux qui ont du talent, mais ils vont s'en occuper, peu importe ce que ça va coûter. Et puis ça, c'est une affaire qu'on n'est pas, on n'est plus capable de faire ici au Canada.
Ça, c'est vraiment dommage. Et alors que c'est encore... Et d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça, puis j'ai une petite pensée qui est pas vraiment dans notre conversation, mais tu sais, des fois, on se promène l'été. Ben là, c'est vrai. Tu sais, dans notre temps, Stéphane, tu as joué au hockey dans la rue, toi, j'imagine?
À tous les jours.
À tous les jours de notre vie, on joue au hockey dans la rue. Puis bref, je veux dire, le sport de rue, je sais pas s'il y a encore des sports de rue, mais ou les sports de cours ou de parc, on dirait que... Puis je me trompe peut-être, là, j'ai pas fait le tour du Québec pour faire une analyse, mais on dirait que c'est de plus en plus le basket. Ou là, c'est vrai que le hockey, si tu veux, bottine, si tu me passes l'expression, il y en a beaucoup qui le pratiquent dans des surfaces de hockey deck, hockey cossum, etc. Là, tu sais, fait que peut-être que ça s'est déplacé de là vers là, mais je veux dire, pour que ça soit accessible, un sport, quand tu peux le pratiquer avec le prix des équipements, c'est exorbitant. Puis le prix, un équipement de gardien de but, là, ton jeune, puis tu changes aux 2 ans, quand ça grandit, là, c'est une fortune. Avoir un fils qui veut garder le filet, Steph.
C'est incroyable. C'est incroyable. Comme j'ai remis encore mon école de gardien de but, parce que j'accueille 150 kids à chaque été, Mario. Et puis, tu regardes, tu te promènes sur la glace, puis on en parle souvent entre entraîneurs. C'est incroyable l'argent que ça a de l'as. La plupart des kids, c'est tous des belles équipements flambant en neuf. C'est incroyable. On est rendu à un autre niveau. Et puis, malheureusement, tu as des familles. Puis nous, avec mon école de hockey, on était capable d'aider quelques familles où ce qui n'avait pas les moyens via des programmes à venir à mon école de hockey. Mais tu vois, la plupart, que
c'est un défi.
C'est un défi pour bien des parents d'envoyer les écoles les enfants au hockey mineur, surtout gardien de but.
Puis, c'est pas parce que t'as le budget que t'as le talent non plus, Steph.
Non, ça revient à ça. C'est ce que je disais là, à peu près 5 minutes, Mario. C'est on passe à côté de tellement de beaux talents mais que les parents n'ont pas les moyens de envoyer le faire profiter ce de beau talent-là, le jeune, parce que c'est devenu un sport qui est très dispendieux.
Malheureusement.
Et puis ça, c'est très malheureux. Et puis, je pense que ça, c'est un gros problème qu'on a au Canada. Et puis, ça revient encore à dire ce que mon ami Nicolas Abibolin dit. Nous, on voit des beaux talents. C'est plus une question d'argent. On va les prendre en main. La fédération va les prendre en main parce qu'ils ont un talent.
Mais tu me dis-tu que si quelqu'un voyait un prodige, là, que ce soit en Colombie-Britannique ou à ton école d'hockey ou dans une autre école, quelque part, je veux dire que le mot se passerait, là, tu sais.
Non, ben, le mot se passerait. Il va falloir que ça va prendre quelqu'un pour y aider. Ça peut être un commanditaire, un mercenaire ou notre système est pas fait pour dire on va l'amener dans le sport études puis on y chargera rien ou on va l'amener dans le milieu 3 puis on y chargera rien. Oublie ça.
Stéphane, une petite question avant de te laisser puis aller en tribune téléphonique puis parler de gardien de but avec Le Monde. Donc maintenant que c'est très très clair pour toi que Carey Price va être le gardien du Canada. J'en avais une autre avant. La gestion du calendrier dans une année olympique, est-ce que ça va être un défi pour Dominique Ducharme et son nouvel adjoint entraîneur des gardiens? Combien tu vois Carey disputer de matchs s'il est gardien du Canada aux Jeux olympiques? Combien tu le vois jouer de matchs avec le Canadien en saison régulière?
Ben moi, les Olympiques, pour moi, c'est si je serais l'entraîneur des gardiens de but du Canadien de Montréal, ce serait Canadien de Montréal passe en premier. On va s'occuper du Canadien de Montréal, puis il arrivera ce qui arrivera avec les Olympiques, là. Mais ça serait encore ce qu'on pour moi, ce serait encore alentour de 55 parties. 55 sur 82. C'est je pense que c'est le plus beau entre 50 et 55 pour Carey. Tout ça, si il est en santé. Ça, c'est, il faut tout le temps prendre ça en ligne de compte. Il y a tout le temps des impondérables. Mais pour moi, entre 50 et 55 games, que ce soit une année olympique ou pas, l'important, c'est qui le paye, c'est le Canadien de Montréal. Et puis, tu penses au Canadien de Montréal avant les Olympiques, ça, il n'y a aucun doute.
Excellent, et je suis sûr que ça fait plaisir aux amateurs du Canadien, parce que je me rappelle des réactions quand Markov avait manqué deux matchs. Et d'ailleurs, ça avait été les premiers matchs dans la Ligue nationale de Piqué-Souban, quand Markov avait manqué deux matchs, puis il avait pris part aux Olympiques, le monde l'avait avalé de travers, parce qu'ils veulent que le Canadien soit considéré en premier. Et parlant du Canadien, bon, Carey Price vient d'atteindre la finale de la Coupe cette année, aurait pu l'atteindre avec toi puis toute l'équipe s'il n'avait pas été blessé contre les Rangers. Je dis pas qu'il aurait gagné la Coupe, mais il était pas loin d'une autre finale. On sait pas ce qui se serait passé. Il est maintenant le gardien ayant remporté le plus de matchs en saison régulière de toute l'histoire du Canadien. En série, évidemment que c'est un autre contexte. Il n'y a pas le palmarès d'un Ken Dryden ou d'un Patrick Roy. Mais rendu à ce stade-ci de sa carrière, tu sais, bon, hey, il y en a des gardiens. Patrick Roy, Dryden, je les nommerai pas tous, là. Mais où est sa place dans l'histoire du Canadien, dans le palmarès des meilleurs gardiens, Stéphane?
Pas compliqué. En partant, je pense qu'on va s'entendre, là. Il est dans les quatre meilleurs de l'histoire du Canadien de Montréal. Puis là-dedans, là, je parle de Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy et Carey Price. Ça, je pense que je pense pas d'avoir beaucoup d'ennemis en affirmant ça. Et puis, rendu là, ça dépend comment tu juges. Si tu juges par les Coupes Stanley, il est quatrième. Il n'a pas. Mais pour moi, Carey Price, c'est sûrement un meilleur gardien de but que mon idole Ken Dryden, et qui a remporté quatre Coupes Stanley. Mais Carey n'a jamais eu la chance de jouer en avant du Big Three, puis une des meilleures équipes de l'histoire du hockey. Donc, c'est dur de comparer ça.
Très dur.
Patrick, pour moi, c'est le meilleur de l'histoire, pour moi, parce qu'il a gagné des Coupes Stanley à Montréal avec des équipes qui n'étaient pas favorites pour gagner la Coupe Stanley. Et puis, il était un élément là très, 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 très déterminant dans ces deux Coupes Stanley-là. Après ça, tu parles de Jacques Plante, et puis Jacques Plante, encore, il a joué dans quelques des plus belles équipes de l'histoire du Canadien dans les fins des années 50, puis avec des Maurice Richard, Jean Béliveau, Bernard Geoffrion, Doug Harvey. Donc, c'est dur, c'est très dur de déterminer qui est le meilleur. Mais il y en a un fait qui est certain, c'est que chez Carey Price, il est dans les quatre meilleurs gardiens de but de l'histoire du Canadien de Montréal, il n'y a aucun doute.
Pis c'est pas rien parce qu'il y en a eu un paquet. Puis sais-tu quoi? Des gardiens de but, là, on a eu des gardiens. Comme petit gars, c'était qui ton gardien préféré? Toi, Stephen White, c'était Steph? C'était qui ton.
Moi, c'était Ken Dryden et ben j'en avais trois. Mais j'avais Ken Dryden, j'avais Rogatien Vachon et Tony Esposito.
Ah, moi, As-tu aimé Tretiak? T'sais, on ne connaissait pas bien, mais moi, il me fascinait. Moi, quand je jouais au hockey dans la rue, là, je m'appelais Tretiak, Dryden, ou Mike Palmetier quand je mettais de la moutarde un peu.
Ouais, Mike Palmetier, c'est une autre affaire, là. Mais tu as tellement raison. Tretiak, pour moi, c'était. Parce que mon idole, je parlais des gardiens de but au niveau de la Ligue nationale. Mais si on inclut Vladislav Tretiak, qui n'a jamais joué un match en Ligue nationale. Pour moi, Vladislav Tretiak a été le meilleur gardien de but au monde. Et puis, j'ai ses livres, je suis dans mon office en ce moment, et puis je regarde justement dans ma bibliothèque, puis j'ai deux livres de Tretiak direct devant moi. Et puis, c'était le wow, tout un gardien de but. C'était probablement c'est le meilleur gardien de but des années 70 et 80. C'est le meilleur.
Moi, parler de gardien de but, là, je m'entends pas, j'adore, j'aurais rêvé d'être gardien de but, puis coudonc, finalement, j'ai fini sur le jeu. Steph, tu as gaulé ton hockey mineur aussi, comme ton frère Jimmy, oui? Ou...
Oui, moi, j'étais un gardien de but très moyen, c'est pour ça que je suis devenu un entraîneur.
puis t'as eu un bon combat en partant.
Oui, exactement, mon premier élève, c'était mon frère Jimmy. Et puis, non, j'ai gardé les buts jusqu'au niveau junior, puis j'ai réalisé assez vite que si je voulais faire un avenir, j'avais un avenir dans le hockey, c'était dans le coaching et non comme joueur.
Merci beaucoup, Stéphane. Une excellente soirée.
Hey, bonne soirée,
merci. Hey, merci. Bye-bye, Steph.